Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je reçois Johan Molo. Vous le connaissez forcément, il est passé par la Ligue 1, par plein de clubs importants, Monaco, la SS, quand il a aussi connu Fulham à l'étranger. Il a connu le Zénith, le Pana. Donc voilà, une belle carrière bien riche, à qui il est arrivé des choses. Pas mal de rebondissements, pas mal d'émotions prévues aujourd'hui, donc accrochez-vous. Johan Molo, Johan, comment tu vas mon ami?
Ça va, merci, et toi?
Ça va. Et tu me disais, t'es passé chez le coiffeur, t'es...
On vieillit, 33 piges, faut rester dans le coup, hein. Sinon les gens ils vont tous nous oublier, c'est pas bon ça.
Bon, dis-moi, les gens étaient un petit peu perdus de vue, mais comment ça va? Le foot, ça va? Tu joues toujours et tout roule?
Ça va, maintenant je joue hier en National 2. Comme je t'ai dit, ça va, c'est un projet, on va dire, cohérent. Et on va dire qu'il m'a permis d'allier un peu le football et la famille. Parce que voilà, comme tu sais, dernièrement, enfin, ma vie, elle n'a pas été toute rose. Donc bon, fallait faire des choix. Et j'ai fait le meilleur choix pour moi et surtout pour ma famille. Parce que c'est eux qui passent avant tout. Et voilà, moi, aujourd'hui, on va dire que l'aspect professionnel, c'est... J'ambitionne avec le club sur un projet, mais à court terme, voilà, c'était trouver une stabilité mentale, surtout, et essayer de m'amuser.
Donc l'amour du foot, il est toujours intact chez toi.
Ben, en fait, j'ai fait ça toute ma vie, donc c'est compliqué de dire que ben, tu fais ça toute ta vie, de changer. Moi, j'ai toujours ce quotidien où je me lève, je vais à la salle de sport, ce professionnalisme. Et on va dire ça fait partie de moi. C'est comme un fumeur, moi je suis un joueur de foot et enfin, ça me fait kiffer quoi.
Ouais, je comprends. Je vais énumérer des clubs parce que nous, on t'a connu notamment à Monaco, à Caen, à la SSE, beaucoup, Nancy, mais tu as connu Fulham, tu as connu le Pana. T'as connu le Zénith. Le pic de ta carrière, quand tu regardes un petit peu par-dessus l'épaule, c'est quelle période?
Ben, je pense Saint-Étienne parce que tu gagnes un titre. Et tu sais que quand tu gagnes un titre, ben, tu restes immortel dans les têtes.
Bon, on arrive dans la partie un peu plus compliquée de ta carrière. On l'a dit, tu as connu le pic, tu as connu l'étranger, tu as connu le très haut niveau en France. Est-ce que en deux, trois phrases, même si c'est un peu compliqué à faire, mais tu peux résumer un petit peu grossièrement, la situation, on va rentrer dans le détail après, mais la situation que tu as connue, ce qui t'est arrivé et comment tu, petit à petit, es arrivé à découvrir ce qui s'est passé.
En fait, je t'explique, j'ai rencontré Franck Bichon et Patrick Blondeau après ma première année en pro. Parce que voilà, tu sais très bien, les loups, ils viennent que quand il y a de la viande. Et vu qu'avant, j'étais personne, et on va dire que j'avais fait une année où on va dire j'avais choqué des têtes. On va dire j'étais avec Jean-Christophe Cano, avec qui ça s'est pas très bien passé. Parce que voilà, enfin, comme tous, hein, c'est des copier-coller. Hein, ça s'est pas bien passé. Et après, voilà, fallait faire des choix. J'avais un ami qui m'a présenté Patrick Blondeau. Et à partir de là, on va dire que j'ai essayé de travailler avec quand j'avais 20 ans, je crois. 20 ans, ouais. Et je suis parti à Caen. Et à partir de là, j'ai travaillé avec eux. Et en fait, je t'explique, très tôt, on va dire, tu vois, je suis quelqu'un qui marche à la confiance. Très tôt, on va dire que nos liens se sont rapprochés. Et j'ai commencé petit à petit à faire confiance. Parce que voilà, tu sais très bien, quand tu vois des bons Français, bons chics, bons genres, avec des polos Ralph Lauren qui ont toujours réponse à tout. Et honnêtement, je peux pas dire qu'au niveau de mon éducation, sur le plan de l'argent, sur le plan des placements, tout ça, je sois une référence. En fait, petit à petit, il a essayé de contrôler ma vie, tu vois. Petit à petit, il a voulu rediriger mon argent. Petit à petit, on va dire, il a un peu coupé la relation avec mon père dans le sens des négociations. En fait, il m'a privatisé.
Par quoi ça s'est matérialisé? Quand est-ce que toi, tu t'es rendu compte et au bout de combien de temps, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas?
Ben en fait, je t'explique, vu que je suis quelqu'un, on va dire, d'assez humble et que j'ai eu un rythme de vie toute ma vie qui, tu vois, ça a été focus sur le sport. C'était je me levais, salle de sport, match, salle de sport, match, salle de sport, match. Il n'y a jamais eu des gros, gros bolides, il n'y a jamais eu des grosses, grosses dépenses, tu vois. Donc en gros, je vivais avec, en payant mon loyer, tu vois, j'aimais bien m'acheter des habits, je vivais avec quoi? 4-5 000 euros, tu vois. Comparé à mes salaires, c'était des broutilles, tu vois. Mais ça me suffisait parce que j'avais pas besoin de plus. Et on va dire petit à petit, mes contrats, ils augmentaient. Donc, comme je voyais mes contrats augmenter, mes dépenses, elles augmentaient. Dans le sens où je me suis dit, ah là, mes salaires, ils augmentent. Donc, je peux me permettre de. Sauf que lui, à chaque fois, ce qu'il me disait, c'était, Johan, faut que tu économises pour la fin de ta carrière. Comme ça, à la fin de ta carrière, tu auras des biens, tu auras ceci, tu auras cela. Et ça sert à rien d'acheter des grosses voitures, ça sert à rien de faire ceci, ça sert à rien de faire cela. Et en fait, au fur et à mesure que mes dépenses augmentaient, j'ai commencé à prendre ma famille avec moi, à faire des vacances, on va dire, à des gros chiffres, à me faire plaisir, tu vois. Et on va dire, à un moment donné, ça répondait pas comme je voulais que ça réponde sur le plan bancaire. J'avais souvent, des problèmes, j'avais souvent, je pouvais pas retirer d'argent, je pouvais pas faire ceci, je pouvais pas faire cela. Et moi, souvent, je disais, mais je comprends pas. Comment ça se fait qu'avec autant d'argent, j'ai toujours ce problème d'arriver à la tirette et de me dire, elle va pas me donner. Non, mais tu comprends, c'est indifféré par rapport aux banques. Je dis, comment indifféré? Je dis, quand tu touches des salaires à chiffres, tu me parles de différé? Tu me dis que j'arrive pas à retirer 200 euros sur une carte, c'est indifféré? Ça c'est la partie haute de l'iceberg. La
Ouais.
partie basse, c'est qu'en fait, quand je m'en rends compte, ben je me rends compte qu'en fait, il n'est pas seul. Et qu'en fait, il y a au moins 17 personnes, dont mon expert comptable, dont des banques, dont des notaires, dont des membres d'assurance vie. Et j'ai été happé par une bande organisée. Et c'est ça le plus dur. Parce que le plus dur, c'est pas de te dire, j'ai été happé par une personne. Parce qu'encore, je peux te dire, parce que les gens, le premier reproche qu'ils me disent, ils me disent, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour pas voir? Comment t'as fait pour pas t'en rendre compte? Ben moi, je vais juste vous demander juste une chose. Quand t'as confiance en quelqu'un, qu'on t'amène dans une assurance vie, qu'on te présente une personne, que la personne te présente des documents officiels, dans un bureau officiel, qu'est-ce que tu penses? Quand ton expert comptable t'appelle, te dit des choses, comment tu fais? Quand ces gens-là convoquent mes parents, parce que je vais dire, mes parents sont vieux, donc ils comprennent pas trop. Ces mecs-là, ils font des réunions, ils appellent mes parents, mais ils parlent pas de mon argent. Juste pour leur dire, regardez, vous étiez dans des bâtiments, on a fait une pseudo-réunion à propos de votre fils, mais on n'a pas parlé d'oseille. On n'a pas vu d'oseille. Regardez, l'argent, il est là. Mais ils le montrent pas. Mais ils disent, regardez, l'argent, il est là. Et c'est ça le plus dur, parce que comme je te dis, en fait, ma vie, ça a été un film, parce qu'à chaque fois que j'étais sur le point de découvrir la vérité, ben, il y avait des rendez-vous où, comme je te dis, j'ai des preuves, où je pars dans des banques et je leur dis, à ce qui paraît, j'ai un compte chez vous. Mais vous êtes qui? Je dis, ben, je suis Monsieur Molo. Ah, Monsieur Molo, vous allez bien? Ok. Je dis, maintenant, je voudrais voir deux choses. Le numéro de dossier, le numéro de téléphone, le mail et tout ce qui va avec. C'était pas à moi. C'était pas mon numéro de téléphone. C'était pas mon mail. Il avait fait des attestations d'hébergement comme quoi moi, je résidais chez lui. Donc, en gros, il avait mes chéquiers, les mots de passe. Et en plus de ça, il faisait des prêts à la consommation. Et comme par hasard, c'est toujours avec la même personne dans la banque. Sauf que j'étais dans 3-4 banques. Et en fait, moi, pourquoi je te dis que j'ai jamais vu ça? Parce qu'en fait, lui, il m'a fait croire à une assurance vie. Donc, en gros, moi, je suis parti dans une assurance vie à Paris avec une personne. Et en fait, lui, il m'a fait croire que tous mes salaires partaient dans l'assurance vie. Et tous les 31 décembre, je recevais des relevés. Sauf que pendant ce temps où moi, je pensais que mon argent, il était dans une assurance vie, en fait, il était en train de me disséquer. Mais en plus de me disséquer, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il a pris ses commissions d'agent, il a pris mes salaires, il a fait des prêts à la consommation, il a acheté des biens, mais sans moi, il a fait moitié-moitié avec les notaires, il a revendu les biens dans la foulée et il a pris de l'argent avec l'acheteur. C'est ce que je veux dire, c'est inhumain ce qu'on m'a fait. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que si tu me fais ça, on va dire par nécessité, que ta mère elle crève de faim, que tu es dans la difficulté. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on m'a fait ça pour du matériel. On m'a fait ça pour, comme je te dis, pour des voitures, pour des voyages, pour flatter un ego. Et c'est ça que moi, j'ai du mal. Comment te dire, je suis quelqu'un de très fort mentalement, tu vois. Et il y a des périodes où j'ai mal. Et c'est ma personnalité, mais ça, je ne le montrerai jamais parce que je suis trop fier pour ça. Mais comme je te dis, tu vois, ces gens-là, ils ont détruit une famille sans arrière-pensée, en fait. Et le jour où je m'en rends compte et le jour où je parle à la même personne, eh ben, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un de différent. On me regarde on me parle avec une froideur et on me dit, et j'ai un audio, comme je te dis, où il avoue tout. Et ensuite, quand je suis auditionné par la police en sa présence, je suis en face de lui pendant 2 heures, je le regarde dans les yeux, vide. Il me regarde pas dans les yeux. J'avais envie de le prendre à la gorge, de le mettre en sang. Parce que ce mec-là, on va dire quelque part, il a fait du mal à mon père, il a fait du mal à ma mère, il a fait du mal aux gens que j'aime. Parce que comme je te dis, pourquoi tu crois que j'ai été professionnel? Pourquoi tu crois que je me suis battu toute ma vie? C'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un de très simple. J'ai pas besoin de tout ça. Moi, la seule chose que je voulais, c'était sortir mon père du HLM. C'était, comme je te dis, tu vois, créer ces moments de bonheur que je créais avec ma famille quand je partais en vacances. Ça n'a jamais été dans mon intérêt. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai jamais changé. C'est après que je me dis, tu vois, sur le coup, je ne me suis pas fait justice moi-même. Parce que comme je te le dis, je mens pas. Je n'ai pas besoin de mentir. Je suis au Panathinaikos le jour d'anniversaire de ma mère. Dis-toi, j'ai pas de club, j'ai pas d'argent. Je fais quoi, moi? Mais je vais en prison. Moi, je te le dis, je vais en prison. Parce qu'aujourd'hui, le mec, il est en face de moi, ou les deux, ils sont en face de moi, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Parce que pendant 12 ans de ma vie, on m'a détruit. Et aujourd'hui, moi, interdit bancaire, je dois de l'argent un peu partout, j'ai des dettes. Et en fait, on m'a laissé comme ça. Et j'étais seul. Donc, pour me relever, comme je te dis, il y a des amis, parce que j'appelle ça des amis qui m'ont aidé dans le milieu du football. Je peux te le dire, tu vois. J'ai trois, quatre personnes que toute ma vie, je leur serai redevable. Tu vois, je peux te dire Julien Janvier, qui joue à l'AJ Auxerre, il m'a aidé. Joshua Guelavogui m'a aidé. Un ami à moi, Boucher, qui m'a aidé. J'ai cru que des gens proches de moi allaient m'aider, tu vois. Parce que c'est des gens proches. Mais au contraire, ils m'ont abandonné. Et des gens, on va dire, que j'ai connus sur mon passage, ils m'ont montré de l'empathie. Mais comme je te dis, moi, j'ai jamais demandé quelque chose, la pitié, c'est pas pour moi, tu vois. Regarde, avec même ce qui m'arrive aujourd'hui, tu me verras dans la rue, je vais sourire, je vais blaguer, parce que je suis pas comme ça. Je suis pas la personne qui va se recroqueviller sur elle-même, je suis pas la personne qui va se plaindre, je suis pas la personne qui va pleurer. Non, moi, la vie, c'est le combat. Parce que si moi, je tombe, ma famille, elle tombe.
Justement, là, j'essaie de me mettre à ta place et je me dis, quand on apprend une mauvaise nouvelle, aussi grosse soit-elle, il y a la première phase où on l'apprend, on doit la digérer tout seul, on est tout seul face à ce qui nous arrive, et il y a la deuxième phase où il faut l'annoncer à nos proches. Quand j'entends ton discours, je sens que tes parents, comme la majorité des gens, mais tes parents sont des gens dont tu es très fier et que tu as envie de rendre très fier. Comment est-ce que tu as vécu le fait de devoir aller partager cette information-là, quand tu dois
Je la
regarder tes
partage pas.
parents dans les yeux et leur dire?
Je peux
Comment
pas.
tu...
Je peux pas. Je peux pas regarder mon père parce qu'en fait, ce mec-là, il a trahi mes parents. Il les a manipulés. C'est ça que moi, je veux dire. C'est que ce mec-là, il est rentré dans la tête des gens. C'est ce que je veux te dire. Je veux pas mal parler. Tu vois, je veux pas mal parler. Mais ces deux personnes, c'est des pères de famille. C'est ça que moi, je veux te dire. C'est des pères de famille. Même si à un moment donné, ils ont eu des problèmes dans leur vie, que je m'en fous. Mais c'est des pères de famille. Donc tu sais quand tu fais mal à quelqu'un, tu sais comment ça se passe. Si un temps soit peu, tu fais attention à tes enfants. Mais tu sais quoi? Je pense que ces gens-là, ils n'aiment pas leurs enfants. C'est des petites merdes. Et comme je te dis, en tant que petite merde, tu penses qu'aux petites choses. Quand tu entends parler un, à part te parler de femmes, de voitures, et de Saint-Tropez, et de Monaco, et des pecs et des abdos qu'il a, c'est une personne inutile. Tu vas le regarder. Il va dire qu'il a marché avec des mafieux. Non, 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 il n'a pas marché avec des mafieux. C'était un pigeon. C'était un pigeon. Ce n'est pas un mafieux. Il n'a jamais tiré sur quelqu'un. Il n'a jamais rien fait. C'est qu'à un moment donné, on l'a associé à une personne qui était quelqu'un. Mais lui, c'est personne. Et l'autre personne, c'était son pigeon, en fait. C'était son larbin. Mais un larbin, comme je te dis, vicieux, manipulateur. Et tout simplement, voilà, il a fait son job. Il a fait son job. Mais j'en reviens à te dire que jamais de ma vie, je pourrais regarder mes parents dans les yeux et leur en parler. Parce que, comme je te dis, j'ai trop de fierté. Faire quoi? Je vais faire du mal à mon père en lui parlant de ça. À chaque fois que je suis devant mon père, j'évite un maximum de lui parler de ça. Mon père, il a 83 ans. Je vais faire quoi? Je vais lui faire perdre des années. À chaque fois que mon père, il me regarde, la seule chose que je lui dis, c'est ma faute. H24, je lui dis, c'est ma faute. Pas ta faute, c'est la mienne. Parce que tu sais comment c'est. Quand un fils, il est impacté, tu sais comment le père, il est impacté. Fois 2, fois 3, fois 4. C'est tout.
J'ai une dernière question pour toi. Je suis désolé, mais ton discours là, tout ce que tu me racontes, ça me chahute beaucoup. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Tu as appris tout ça, tu as perdu beaucoup d'argent, plus que ça, c'est plus que de l'argent ce que tu as perdu. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une décision de justice? Est-ce qu'il y a un
Ben,
procès?
aujourd'hui, comme je te dis, vu que j'ai confiance en personne, j'espère avoir confiance en la justice. Donc, ça fait 4 ans que j'ai entamé des démarches. Il y a eu des, comment dire, il y a eu plein d'auditions, tout ça. Et le 22 mai, on veut dire maintenant, on est au stade des audiences. Lui dit, il avoue, il dit qu'il a détourné 2 millions d'euros. Il dit, mais c'est pas la vérité, mais il dit. Parce que, à un moment donné, son nom, il est affiché partout. Son écriture, elle est partout. Et à un moment donné, il est obligé d'avouer quelque chose. Donc lui dit ça. Sauf que, comme je te dis, il était de mèche avec le directeur sportif du Zénith. Il était de mèche avec le directeur sportif de Foulon. Parce qu'en gros, ils m'ont fait signer des contrats de droit d'image. Donc en
D'accord.
gros, il y a de l'argent qui a transité à l'étranger. Donc, dans l'audio, il dit que ça existe. Mais devant la police, il dit que ça n'existe pas. Mais ces documents, je les signe dans le bureau avec eux. Donc, à un moment donné, lui, il a un accord avec eux. Et aujourd'hui, comme je te dis, là, le protocole, c'est le 22 mai, j'ai une audience. Et ça va suivre son cours, tu vois. ça va suivre son cours, mais
Ça prend du temps.
on va voir, ça va prendre du temps, on va voir où ça va mener, mais j'ai pas
Ok.
les mots, tu vois. J'ai pas les mots parce qu'il y a des jours où je suis seul, il y a des jours où je me mets à réfléchir, il y a des jours où je me dis comment c'est possible de faire ça à un être humain.
Pourtant, je te trouve hyper accessible. Et c'est à ma surprise parce que je sais que tu as toujours été, en tout cas, c'est toujours ce que tu as dégagé, tu as toujours été transparent, tu as toujours été authentique avec les gens de manière générale. Mais là, je te trouve hyper accessible par rapport à quelque chose de très intime, très personnel et très douloureux. Pourquoi est-ce
Parce
que
que
tu
comme je t'ai
décides de parler
dit,
à ce moment-là?
non, j'ai pas honte. J'ai pas honte parce que j'ai pas fait d'erreur. J'ai été moi, de la première à la dernière seconde. C'est pas une question de naïveté, c'est pas une question de gentillesse. Moi, je te le dis, je te le redis, j'ai été manipulé par 17 personnes. Faut se mettre dans la tête. C'est pas une question, j'ai été seul. Tu peux même pas t'imaginer le degré d'anxiété que j'ai développé dans mon corps maintenant, quand une personne me parle. Et le pire, c'est que ces gens-là, je sais même pas comment ils font pour vivre, en fait. Chaque matin, quand ils se réveillent, ils se regardent dans la glace et ils vivent. Et moi, c'est ça que je comprends pas. Parce que je sais que pour ces gens-là, moi, je sais que je me suis fait une raison dans le sens où je sais que ces gens-là, en fait, ça leur fait rien. Et j'aimerais que ça leur fasse du mal, qu'ils se posent des questions. Mais en fait, non, je le sais. Parce que comme je te dis, comme c'est des gens inutiles, ils pensent pas à ça.
Johan, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi te dire. Ton témoignage, il m'a pas mal secoué. Je pense que tous les suiveurs de Call Interview aussi ont été un peu secoués par tout ce que tu nous as raconté. Bravo pour ton courage. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite en 2023. Profite des fêtes de fin d'année. On espère que la nouvelle année, elle va être positive pour toi parce que tu le mérites, mon ami.
Oh, merci.
Prends soin de toi. Merci encore pour ton authenticité et à très vite, j'espère. Ciao.